d'emploi. Mode d'emploi.
Et bienvenue sur Mode d'emploi, séquence secret de fabrication. Donc nous venons faire parler aussi des salariés sur leur lieu de travail, sur leurs conditions de travail, sur leur vie au travail. En fait, l'émission d'aujourd'hui va être un peu un récapitulatif de pourquoi on fait cette émission. On vient vous présenter des choses une fois par mois et on explique rarement le pourquoi du comment de ce qu'on présente. Mais toutes ces questions de liberté de parole, en fait, dans l'entreprise, elles ont leur poids. Le thème d'aujourd'hui, ce sera pas mal comment on parle, comment on arrive à faire sortir ces secrets, donc ces secrets de fabrication, ces secrets de l'exploitation dans les entreprises, et comment on y vit. Et pourquoi est-ce que ça a son importance? Bah parce que c'est un enjeu de procès, c'est un enjeu de droit. Il y a des lois qui sont passées. Alors une fois c'est pour protéger les lanceurs d'alerte et le lendemain c'est pour protéger le secret dans les entreprises, donc le secret des affaires. Et tout ça pourrait sembler un peu contradictoire, mais en fait il y a une logique derrière. Alors sur le front du secret des affaires, sur le front du droit des lanceurs d'alerte, on a une affaire qui nous a beaucoup préoccupé pendant cette période, sur laquelle nous sommes souvent revenus, hein, un petit peu le feuilleton de l'émission, un peu le feuilleton de la séquence secret de fabrication. Je veux parler de l'affaire Laura Pfeiffer. Alors, pour ceux qui ont suivi l'émission jusqu'ici, la grande majorité bien entendu de ceux qui nous écoutent ce soir, vous n'avez rien à apprendre sur l'affaire Laura Pfeiffer. Je vais quand même la résumer pour tous les autres qui n'ont pas fait leur devoir. L'affaire Laura Pfeiffer, c'est une inspectrice du travail de Haute-Savoie qui décide de faire son boulot et de se rendre dans une des grandes entreprises du secteur qui s'appelle Tefal et de donner son avis comme il se doit sur le régime du temps de travail dans l'entreprise. Et elle considère, avec sa capacité de lecture des accords d'entreprise, que malheureusement pour Tefal, leur accord sur le temps de travail n'est pas légal, il n'est pas dans le cadre qui est prévu par la loi, et qu'il va donc falloir en rediscuter. Et Tefal prend ça très 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 mal et très 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 au sérieux et donc se met à agiter ses tentacules dans tout le département, et Tefal a le bras long dans le département, c'est un gros employeur, et donc commence à faire des misères à cette inspectrice du travail. Elle finit par obtenir par un salarié qui cherche lui-même à se défendre contre son entreprise, donc un salarié de Tefal, qui récupère un certain nombre de documents sur le serveur de l'entreprise pour essayer de voir ce qu'il peut utiliser pour sa défense. Et il tombe sur des échanges de mails au sein de la hiérarchie qui apportent la preuve que Tefal est en train d'utiliser des contacts à la préfecture, aux renseignements généraux et jusque dans la direction du travail départemental pour faire taire, faire muter ou au moins remettre sous contrôle cette inspectrice du travail qui est gênante. Et donc ces documents sont transmis à la personne concernée, donc Laura, qui décide de saisir les instances de contrôle de l'inspection du travail, donc le Conseil national de l'inspection du travail, et qui transmet également ses informations à ses syndicats parce qu'elle se sent menacée par son supérieur hiérarchique qui, visiblement, prête la main à toutes ces manipulations. Donc, on pourrait se dire, c'est un cas d'obstacle à l'inspection du travail, c'est un cas d'influence extérieure indue, ce qui est normalement complètement interdit. Et donc, la justice va se pencher sur cette affaire dans le bon sens. Qu'a donc fait Tefal d'illégal, donc, et regardons ça d'un peu plus près. Ben non, la justice de notre beau département de Haute-Savoie décide plutôt de se mettre à chercher des poux dans la tête à Laura par rapport à la nature des documents qu'elle s'est procurés. Ah oui, c'est des documents qui étaient supposés rester confidentiels dans l'entreprise, mais c'était aussi des documents qui prouvaient que l'entreprise avait violé la loi. c'était les documents qui que le salarié en question s'est procuré de manière illégale, puisque théoriquement il n'a pas à faire des recherches comme cela dans le serveur. Oui, mais c'était des documents qu'il avait recherchés pour se défendre lui, et dont Laura avait besoin pour se défendre elle. Décidément, on pouvait trancher dans un sens comme dans l'autre. Tout ce qui s'est passé, à la fois en première instance et en appel, c'est que le juge a choisi de poursuivre Laura. Bon, on pourrait se dire c'est une sale histoire, comme d'habitude dans notre beau pays, et passons sous silence la suite. Mais non, car la justice, poursuivant son travail, a fini par arriver en cassation, et la Cour de cassation a tout cassé. Et oui, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel, et je pense, si la technique me le confirme, que Laura est au téléphone. Alors, est-ce que je vais avoir Laura au téléphone ? Allô ?
Vous m'entendez ?
Ouais. Ah ben, je suis tout seul, là, dans le studio, donc le vous est trop, là, Laura. Oui, on s'entend bien. Donc là, tu es en Guadeloupe ?
Ouais, c'est ça, ouais.
Waouh, super. Donc, il fait beau, là, le soleil brille ?
Ouais, le soleil brille et il est 14h.
Ben ouais, c'est ça. Bon, ben écoute, évidemment, on était... Aujourd'hui, le thème de l'émission de ce soir, essentiellement, ce sera le thème de la défense de la liberté d'expression dans l'entreprise. Je pense que ça te parle.
Ouais.
Ça te parle, ouais. Et j'en étais arrivé donc, avant que tu arrives à l'antenne, donc au résumé de ton histoire, et nous en étions à la Cour de cassation. Ah, la Cour de cassation. Elle a fait son boulot, on dirait, cette fois-ci.
Ouais, cette fois-ci, elle a fait du droit, donc c'est cool.
Elle a fait du droit. Waouh, ça c'est super. Il faut attendre la Cour de cassation pour qu'on ait enfin du droit, c'est ça ?
C'est ça, voilà, c'est ça, c'est à peu près ça. Avant, c'était pas du droit, là, maintenant, ça devient du droit, ça... donc du coup, bah, c'est vachement plus sympa pour moi, quoi.
Ouais, je pense aussi. Alors, tu sais, on n'a pas l'habitude de rentrer dans le détail des jugements de cours de cassation et tout, mais c'est une émission un peu particulière, donc on peut se permettre aussi de regarder les choses. J'ai sous les yeux l'arrêt de la chambre... Ouh là là, attention. Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui est extrêmement instructif. J'ai pris le temps de le lire. Il y a plein de choses qui sont, à mon avis, qu'on va commenter ensemble, si ça te dérange pas.
Non, ça.
D'accord. Mais dans un premier temps, je voulais t'apporter une information francilienne, là pour le coup, dont tu n'étais peut-être pas au courant. C'est la bagarre qui s'est menée là en 5 secs, en 3 coups de cuillère à peau sur l'île de France. Avec le concours donc de la CGT Paris et de l'inspection du travail pour faire régulariser des travailleurs sans papier.
Ouais, c'est ça, j'étais au courant.
T'étais au courant ? Ah, ouais. Donc tu connais l'histoire des salles de fitness de la région parisienne, alors ?
Tout à fait.
C'est ça. Eh ben, écoute, moi je voulais savoir. Alors moi, d'après les informations que j'ai, c'est l'intervention de la CGT a été coordonnée avec un contrôle simultané par l'inspection du travail dans le but. Donc, d'obliger le patron à prendre en compte, le patron alors soit directement, soit son donneur d'ordre, à prendre en compte la situation de ses salariés. Et j'ai des infos très 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 fraîches. Un protocole de fin de conflit aurait d'ores et déjà été signé. Ça, ils étaient en grève lundi, hein, donc là on est vendredi, c'est en moins d'une semaine. Les SERFA seraient sur le point d'être délivrés. Le minimum serait du 24 heures, donc on passe dans du temps partiel acceptable, y compris pour la préfecture. Et donc ça a l'air très très bien engagé. Qu'est-ce que tu penses de ces initiatives communes, syndicats et inspection du travail, de ton point de vue d'inspectrice du travail?
Ah ben moi ça me va bien hein, quand on est de concert et que enfin c'est en général c'est plus efficace quand les syndicats et nous on est de concert que quand on est chacun de notre côté à œuvrer pas forcément pour la même chose ou dans le même timing non, je trouve que c'est mieux quand on est ensemble pour lutter ouais non franchement oui moi je trouve ça mieux
ouais.
Après notre ministère va peut-être pas être du même avis que moi mais c'est l'habitude.
Mais, oui.
Parce que eux, ils veulent. Enfin, là, en plus, le tournant qu'à l'heure actuelle on prend, c'est justement être plus proche de l'employeur et un petit peu moins des syndicats. Donc, en tant qu'inspecteur du travail, c'est ce qu'ils voudraient. Mais bon, moi, je suis convaincue que pour, en tout cas, défendre efficacement le droit des travailleurs, il vaut mieux être plus proche des syndicats que de l'employeur. Ça, c'est mon point de vue.
Oui, c'est effectivement un point de vue. Alors, c'est vrai que bon, je pense qu'il y a eu quand même pas mal de, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts avant que ce type d'opération devienne un peu monnaie courante. C'est en Île-de-France, on a un peu pris l'habitude de bosser effectivement avec les collectifs sans papiers, avec les syndicats pour obtenir ce type de résultat. On commence à avoir un début. Je dirais pas d'expertise, mais voilà, de pratiques professionnelles qu'on essaie de répandre un peu autour de nous. Donc voilà quoi. C'est, je pense que, enfin, moi aussi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est important de faire ça, mais aussi on n'est pas le relais parfait, donc que les syndicats
le problème,
nous donnent.
En fait, ouais. Le problème, c'est que dès qu'on commence à faire ça, la hiérarchie va nous accuser de pas être dans la déontologie et de pas être impartial et neutre.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'était un des arguments du procureur de la République dans mon premier procès, celui d'Annecy, c'est de dire que quand j'ai fait venir des témoins à la barre, donc des inspecteurs du travail ou des directeurs du travail qui ont témoigné pour moi, et à chaque fois le procureur a essayé de les coincer en leur disant mais c'est quoi pour vous la définition d'un inspecteur du travail, puisque c'était le fameux procureur qui voulait faire le ménage chez nous.
Oui.
Et lui, en fait, son problème, c'est ça, c'est-à-dire que pour lui, on est tous des gauchos, on veut tous sauver la veuve et l'orphelin, et on est tous partiaux dans le sens où on est contre le patron, quel qu'il soit et quoi qu'il fasse. Et donc c'est ce qu'il voulait faire sortir à la barre, et je me rappelle très bien, à chaque fois qu'il interrogeait les témoins, il disait mais c'est quoi la définition pour vous d'un inspecteur du travail, et à chaque fois que les témoins répondaient c'est de défendre le salarié, de rétablir l'inégalité, parce qu'il y a un lien de subordination, donc forcément il y a un rapport de force qui est déséquilibré, donc c'est de ramener cet équilibre-là. Et à chaque fois, le procureur disait mais vous voyez, c'est pas ça l'inspection du travail. L'inspection du travail, c'est d'appliquer le droit, d'aider les employeurs à appliquer le droit. Et donc c'est là tout l'enjeu en ce moment, c'est-à-dire que notre ministère et certains représentants de la justice veulent nous ramener sur avec un coup de neutralité, d'impartialité obligée, il faut qu'on devienne des conseillers de l'employeur, grosso modo, alors que si on veut faire notre travail correctement, et comme moi, le pourquoi je me suis engagée dans ce travail-là, c'était de défendre le salarié. Et c'est vrai que pour défendre le salarié, il vaut mieux travailler de concert avec les syndicalistes, les OS.
Oui.
De travailler de concert avec l'employeur, parce que sinon, ça ne fonctionne pas très bien.
Ça semble tomber sous le sens, effectivement.
Voilà.
Et d'ailleurs, les syndicats dans cette affaire ont un argument de force auquel on est tout à fait sensible. Hein. Je lis juste l'intervention de Marilyne Poulain de la CGT 75 sur ce dossier-là. Hein. Elle disait donc, sans régularisation, il n'y a aucune inclusion possible dans la société. Avec l'hôtellerie et le bâtiment, le nettoyage est l'un des secteurs qui emploie le plus de travailleurs sans papier, car il n'y a pas besoin de qualification. Et ce sont des horaires décalés, ce sont des basses besognes les moins attractives. Ces personnes devraient pouvoir s'insérer. Donc c'est une conclusion qu'on peut partager, nous, sans problème.
Non, tout à fait.
Ouais. Donc voilà. Donc il y a aussi, on essaie de se démener tant bien que mal pour défendre les droits des salariés et nos propres prérogatives. Et c'est dans cette espèce de trame que tu as été prise, en fait, toi.
Bah ouais, c'est ça, ouais. Parce que bon, moi, c'est vrai qu'au départ, j'ai été saisie par des salariés lambda et par certaines organisations syndicales qui m'ont saisi d'une problématique qui était qu'en faisant pointer les agents, enfin ils avaient commencé à faire pointer les agents de maîtrise, ils se sont aperçus qu'ils faisaient plein d'heures sup. Du coup ils voulaient leur faire signer des conventions de forfait pour arrêter de leur payer leurs heures sup. Et donc ceux qui voulaient pas signer les conventions de forfait, ils leur mettaient une pression de dingue pour qu'ils signent, etc. Donc c'est dans ce contexte-là que, en gros, certains salariés qui avaient une grosse pression, et puis des OS sont venus me voir, et puis c'est vrai que moi j'ai commencé à mettre mon nez là-dedans, et puis je me suis aperçu.
Et ça a pas plu.
Ça a pas plu. Les accords de durée de travail, moi je me suis aperçu qu'il y avait des gros soucis de rédaction. Donc je leur ai dit en attendant vous devez tout rédiger, tout revoir. Et puis ça m'a tellement pas plu qu'effectivement là ils ont commencé parce que je leur demandais juste de renégocier, et puis ils ont commencé.
Tu leur as pas réécrit leur accord, tu leur as dit refaire.
Non, je leur ai dit vous le renégociez et je vous laisse s'il le faut une bonne année pour faire ça, quoi. On n'est pas pressé non plus à la minute, mais il faut le faire, quoi. Et puis en fait eux, ils voulaient pas du tout le faire, donc.
Donc ils ont utilisé d'autres moyens. Alors c'est intéressant parce que tu citais donc le procureur de la République d'Annecy. Est-ce qu'on peut citer son nom, tu penses? Bah oui, parce qu'en fait c'est public son nom.
Hein.
Donc c'est Monsieur Maillot. Alors Monsieur Maillot, je suis vraiment désolé pour lui, mais je dois dire que la Cour de cassation l'étrille passablement, en fait. J'ai relu un peu les attendus de l'arrêt de la Cour. Et en fait, il a tout faux, ce bonhomme. c'est un peu dommage.
Ça, c'est vrai qu'il a tout faux. Le pauvre. Déjà, lui, moi, ce qui m'énerve, c'est que avant même que je sois, que je passe au tribunal d'Annecy, donc avant même le premier procès, il déclare dans la presse qu'il veut faire le ménage à l'inspection du travail, que je suis un voyou, que mon directeur départemental de l'époque est un homme charmant. Donc là, on a envie de se dire, quand il nous donne des grandes leçons de neutralité, d'impartialité, il faudrait mieux, il ferait mieux de se regarder lui et de se dire où elle est son impartialité à lui, parce que moi, il m'avait déjà jugé condamné, il avait déjà jugé condamné toute l'inspection du travail avant même le premier procès. Donc ça, c'est vrai que ce charmant homme n'a à peu près rien compris. Mais bon, en attendant, il lui est rien arrivé à lui, hein.
Ben d'accord, il lui a rien arrivé. N'empêche que, en tout cas, en haut lieu, ils n'ont pas trouvé ces pratiques extrêmement favorables. Pas plus qu'ils ont. Enfin, grosso modo, ils s'attaquent évidemment. Alors, on va faire un peu de lecture de droit. Hein. Ça, je dis ça pour les auditeurs. Ça veut dire qu'on va rentrer un peu dans le détail de comment ça se produit. Alors, il faut savoir. Hein, je fais juste un petit topo de 2 secondes. Hein. Donc, il y a la première instance qu'on appelle donc le tribunal de grande instance qui gère les affaires délictueuses, donc en ce qui nous concerne, et qui donc était à Annecy. C'est là où il y a notre fameux procureur.
Hein, c'est ça.
Il y a eu un appel. Alors, je peux pas m'empêcher de révéler les informations croustillantes, hein, c'est une radio ici. Donc, en appel, donc nous avons eu droit à la cour d'appel de Chambéry, qui était donc présidée par, il me semble, la compagne du précédent, Monsieur Maillot, c'est ça ?
C'est ça.
D'accord, donc parfait, donc pour l'impartialité, on continue, on en remet une louche. Et donc, c'est le jugement de la cour d'appel, qui est le dernier jugement au fond, c'est-à-dire le dernier jugement sur les faits, qui est passé au crible de la cour de cassation, qui, elle, casse sur la forme.
Hein. C'est ça, ouais.
Voilà. Donc, ça veut dire que la cour de cassation ne va pas refaire un jugement. Par contre, ce qu'elle a fait, alors on va éventer le suspense tout de suite, elle a annulé la décision de la cour d'appel.
Ouais.
Et donc, elle a renvoyé pour être jugée dans une autre cour d'appel.
C'est
ça. Hein, celle de Lyon.
Celle de Lyon, ouais.
Bon.
Ouais.
Bon, alors ça, c'est la décision finale, mais c'est intéressant de revenir sur les attendus. Alors, les attendus, je précise là encore pour les auditeurs, c'est la partie où le juge explique le pourquoi de la décision finale qu'il a prise. D'accord? Pour les auditeurs, quand vous lisez un arrêt ou un jugement, il faut commencer par la fin. La fin dit la décision qui a été prise et au fur et à mesure, on commence chaque attendu par la fin parce que la conclusion de chaque attendu dit le sens de la décision qui va être prise. Hein, donc je le dis donc. Donc on va commencer par la fin de chaque attendu. Alors la fin du premier attendu, c'est très intéressant. Hein, je vais juste te rappeler de quoi il s'agit. Ils invoquent l'article 122-9 du Code pénal qui a été introduit dans le Code pénal par la réforme Sapin sur les lanceurs d'alerte. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont dit attention, le procureur a fait une erreur sur cette affaire ?
Ben en fait, le problème c'est que il y a un article qui est arrivé, donc qui a été inséré effectivement dans le code pénal en décembre 2016, qui crée un nouveau fait d'irresponsabilité pénale. Donc en gros, même si tu as commis un délit, si tu es lanceur d'alerte et que tu rentres dans le dispositif, tu peux pas être considéré comme responsable pénalement.
Mmh.
Et le problème de cette affaire, c'est que avant même la loi Sapin 2, il y avait quand même des dispositifs juridiques d'irresponsabilité pénale qui existaient. Il était beaucoup moins complet que celui qui a introduit la loi Sapin 2.
Mmh.
Et c'est pour ça que depuis Annecy, mais nos avocats, que ce soit les miens ou celui du salarié qui m'a transmis les documents, ils arguaient de ça. Ils disaient, mais attendez, ils sont lanceurs d'alerte de toute façon. Donc, ils ne peuvent pas être condamnés. Et parce qu'il y avait quand même déjà des dispositifs, notamment un dans le Code du travail, qui rend irresponsable le salarié qui prend des documents pour se défendre, par exemple,
oui.
Ou qui lance une alerte, qui disent qu'il peut pas être... En gros, le salarié peut pas être licencié, on peut pas lui refuser une embauche ou une promotion s'il est lanceur d'alerte. Mmh. Donc, fort de ces dispositifs juridiques déjà qui existaient déjà, nos avocats disaient, et puis fort aussi des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme, nos avocats disaient, ben, on ne peut pas les condamner parce que ce sont des lanceurs d'alerte. Et que ce soit à Annecy ou à Chambéry, ils n'ont jamais voulu, ne serait-ce qu'examiner si oui ou non on est des lanceurs d'alerte.
Alors oui, ce qui est fascinant, c'est qu'ils réécrivent la loi, en fait, dans leur, que ce soit la Cour, justement, alors première ou deuxième instance, ils réécrivent la loi. Ils disent, ces textes, de toute façon, ne sont pas applicables. Bon, déjà, alors ça commence bien. C'est gentil de dire que la loi n'est pas applicable, mais bon, ok. Et ensuite, ils disent « La protection instaurée par ces textes ne peut constituer une nouvelle cause d'irresponsabilité pénale. » Alors, même moi, je vois que ce qui est écrit dans le texte, c'est précisément le contraire.
C'est ça. Mais ils n'avaient pas envie. Et puis,
non, ils n'avaient pas envie.
Et puis, pour autant, mon avocat disait bien dans ses conclusions que quand la loi pénale, elle est plus douce, elle doit être appliquée rétroactivement, c'est quand même un béaba du droit pénal. Moi, je suis juriste et je suis pénaliste. Mmh. C'est un truc que tu apprends en première année de droit pénal, quoi.
C'est ça.
C'est le début du truc, quoi.
Le principe de la loi la plus douce. Si la loi a été adoucie et les peines ont été adoucies, ou si des causes d'irresponsabilité pénale sont apparues du fait de la loi, c'est sur la base de la nouvelle loi plus douce qu'on doit juger.
C'est ça. Mmh. Tant que la décision de justice n'est pas définitive, donc tant qu'il y a des moyens de recours, ce qui était notre cas, effectivement, on doit appliquer aux prévenus les lois pénales plus douces. Donc ça, ils ont toujours refusé de le faire. Et du fait qu'ils refusent de le faire, ils n'ont jamais répondu à la question si oui ou non on était dans un sort d'alerte. Ils n'ont même pas examiné les conditions, les critères, quoi
c'est
que
ça.
Ce soit, en fait.
C'est ça. Et donc, c'est bien ce que dit donc l'attendu se conclut. L'arrêt attaqué doit être annulé pour permettre l'examen des faits au regard de cette disposition légale nouvelle. Monsieur Maillot, vous n'avez pas fait votre boulot.
C'est ça.
C'est ça. Première année, alors, hein.
Ouais, première année.
Ça remonte loin, là.
Ok. De la masse.
Bon, alors attendez, parce que non, mais ça c'est juste le premier attendu. Parce que alors la suite c'est encore très rigolo aussi. Alors moi ce que je vois c'est que donc l'attendu se termine là-dessus en disant encore une fois donc le procureur a refusé d'examiner si tu avais effectivement suivi une procédure pour exercer tes droits de défense en tant que salarié de la fonction publique en fait. Hein.
Ouais.
Et donc il dit donc. En alerte, parce que j'ai bien précisé hein, dans l'introduction, avant que tu sois là, que tu as transmis ces informations, les informations qu'on t'avait données, tu les as transmises au CNIT, le Conseil National de l'Inspection du Travail.
Ouais, c'est ça.
C'est notre organe de déontologie, en fait.
Tout à fait.
C'est ça. Donc, c'est quand même important que le CNIT, qui doit veiller à ce qu'on n'ait pas d'influence extérieure indue, se prononce sur les documents que tu lui as transmis.
Ouais.
Bon. Et donc, le procureur, tranquillement, dit, oui, mais ce sont des documents d'origine délictueuse, donc aucune autre règle que ma colère, en fait, contre l'inspection du travail ne peut s'appliquer. Or, le problème, c'est que, avant de juger ça, il aurait dû vérifier si tu n'étais pas en train, tout simplement, d'exercer tes droits de défense contre ton employeur.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Deuxième motif de cassation, boum.
Et ils répondent à chaque fois, hein, ils disent que non, j'étais pas du tout en train de me défendre, que c'était de la vengeance personnelle, enfin, un truc complètement aberrant. Ils ont même marqué à un moment donné que j'avais pas reçu et utilisé les documents dans l'exercice de mes fonctions, que c'était moi en tant que personne physique et pas en tant qu'inspectrice du travail, alors que les documents,
je les ai utilisés
non seulement dans l'exercice de mes fonctions, parce que le CNIT, tu peux le saisir que quand t'es agent de contrôle, parce qu'en plus, les documents, j'ai
Attends, stop. T'étais agent de contrôle? Non ou pas ?
Ben oui, j'étais agent de contrôle.
Ah ben, j'ai eu peur.
En fait, je sais pas ce qui s'est passé. Après, c'est empreint de mauvaise foi. C'est ce qu'on a dit, hein, c'est des procès politiques.
Oui.
Donc, le droit, il s'assoit dessus, ils n'en ont rien à péter.
Oui.
Et puis surtout, ils vont tellement loin, la cour d'appel de Chambéry va encore plus loin, c'est-à-dire qu'elle se permet de dire, par exemple, que j'ai failli aux règles déontologiques.
Oui, alors ça, on va aller voir dessus.
Personne ne lui demande rien et non. Que ce n'est pas son rôle de le dire parce que c'est du disciplinaire et qu'elle est là pour juger du pénal. Donc on se demande en plus ce que ça vient foutre là au milieu. On ne sait pas.
Fait l'objet aussi d'un attendu. Alors là, on est passé sur le deuxième moyen de cassation, alors, qui est un peu différent. Alors, ils calculent en premier moyen, deuxième moyen, c'est-à-dire qu'ils essaient de voir un peu les différentes manières d'attaquer le jugement. Alors, ils ont tout bon, hein, parce que c'est-à-dire que là, il n'y a rien qui résiste. Mais ils prennent la peine quand même de détailler un peu les différents éléments et justement que n'as-tu transmis un procès verbal d'obstacle à tes fonctions au procureur de la République ? Pourquoi t'as pas fait ça ?
En plus, je l'ai fait.
Ah oui, c'est ça. Oui, tu vois que tu l'avais fait, oui.
Je l'ai fait quand même. C'est qu'on m'a reproché à un moment donné, parce que pareil, dans le procès, on dit que je l'avais pas fait. Donc moi, quand j'étais auditionnée pendant mes procès, j'ai dit, si, je l'ai fait. Mais on m'a dit, oui, mais vous l'avez fait tard. Et alors, il faut savoir que j'ai été malade quand j'ai reçu, j'étais un peu en dépression nerveuse, et j'ai quand même osé mettre 4 mois pour faire un PV. Donc il faut savoir que quand on sait combien de temps les agents de contrôle mettent pour rédiger un PV, moi, j'étais malade, j'étais même pas au bureau et j'ai mis 4 mois pour rédiger un PV. Donc, en gros, je suis de mauvaise foi, je l'ai fait exprès et j'étais beaucoup trop longue.
D'accord. Et ils ont examiné le PV.
Ou pas.
Ou pas, ouais. Donc, alors, attends.
Ils l'ont classé bien gentiment.
Ils l'ont classé bien gentiment. Mais alors, par contre, ce que je comprends pas, c'est que justement, ils disent, alors, ils se bornent à énoncer, alors, ce que dit la Cour de cassation, mais on ne comprend pas, ils se bornent à énoncer que tu as eu connaissance, en raison de tes fonctions d'inspectrice du travail, d'un certain nombre d'informations à caractère secret, ok, certes, mais il n'y a pas d'analyse des informations effectivement contenues dans les documents. Or, que révèlent ces informations ? qu'il y a probablement eu un délit commis à la fois par Tefal et par ton supérieur hiérarchique. Ou que c'est une possibilité, en tout cas.
Ben, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai relevé. Oui. J'ai relevé plusieurs délits. J'ai relevé le délit d'obstacle à mes fonctions et j'ai relevé le délit d'entrave au CHSCT.
Okay.
Donc, j'ai relevé déjà deux délits dans ces documents qui apparaissaient, clairement.
Mmh.
Et c'est vrai que c'est ce que je dis, c'est que le problème du classement sans suite, ce que Maillot a choisi de faire, il a tout classé avant de partir de son poste.
Pas tout classé, il n'a pas classé le PV de Tefal. Enfin bon, bref.
Ben non. Et donc du coup, quand il a classé toutes mes procédures pénales,
oui.
Ça ne leur enlève pas le caractère délictueux au fait. C'est-à-dire que pour enlever le caractère délictueux au fait, il aurait fallu une relaxe.
Oui.
Il aurait fallu un procès. Donc il a classé, il a le droit, c'est opportunité des poursuites.
Ouais.
Mais pour autant, ça veut dire que ça n'était pas des délits.
Oui,
juste, il a jugé pas opportun de poursuivre ces potentiels délits.
Et c'est intéressant parce qu'il base en plus son argumentation dessus. Il dit que il non seulement, alors en plus, il surinterprète gravement la question du lanceur d'alerte, hein, parce que le problème, il dit que il ne faut pas que ce soit susceptible de constituer un délit ou un crime, mais il faut que ce soit nécessairement constitutif d'un délit ou d'un crime. Mais qui est le juge dans l'affaire? C'est pas supposé être lui.
Bah si.
Bah oui. Là, il te demande de juger avant lui, en fait.
Voilà, donc c'est pour ça que, en gros, en général, la simple bonne foi, c'est-à-dire le simple fait qu'on peut potentiellement de bonne foi supposer qu'il y a un crime ou un délit à l'origine de l'alerte, suffit normalement à vous faire entrer dans la catégorie des lanceurs d'alerte. Parce qu'effectivement, on n'est pas juge, quoi.
Il a mal lu, parce que effectivement, c'est une lecture trop restrictive. Le droit d'alerte, c'est on signale aux autorités compétentes. J'ai bien suivi, hein, qu'il y a un problème. Mais c'est pas à nous de juger.
C'est ça. Donc, le salarié, fort logiquement, il m'a signalé à moi.
Oui.
Qui suis pour lui l'autorité compétente.
Oui.
Moi, j'ai jugé que potentiellement il y avait des délits.
Oui.
Donc, moi, je fais des PV et je le signale au procureur de la République.
Bon.
Et donc, bah, jusque-là, rien de nouveau et rien d'extraordinaire. C'est juste que, bon, après. Voilà, il fallait pas que j'utilise. En fait, quand on écoute le procureur de la République et la justice, que ce soit Annecy-Chambéry, on a l'impression qu'en gros, il aurait fallu que je réceptionne ces documents, que je les oublie et que je les mette dans un tiroir et que je m'en sers jamais, quoi.
C'est magnifique.
Et que je souffre en silence. Donc c'est ça, oui. Non, mais à un moment donné, il faut être un peu sérieux, mais bon, non.
Bon. En tout cas, il se fait rembarrer là-dessus puisqu'il dit, alors sur cet attendu-là, il dit en plus, c'est pas très clair ce que prétend à la fois Annecy et Chambéry, c'est-à-dire que. Il n'est pas si évident que ce qu'ils prétendent que tu aurais violé le secret professionnel. Parce que c'est très limité le secret professionnel, en fait, chez nous.
Bah, c'est ça le problème, c'est que depuis le début, mes avocats n'arrêtent pas de dire que le secret professionnel, c'est le secret de fabrication.
Oui.
Voilà.
Le nom de l'émission.
C'est vraiment restrictif.
Oh, pardon.
Et ça n'a rien à voir avec le fait de recevoir des documents et de s'en servir en plus dans le cadre de ses fonctions pour exercer son métier, quoi. Mmh. Ou pour potentiellement, comme je l'ai fait aussi, me défendre de l'atteinte à mon indépendance. Donc c'est vrai que, là, il mélange tout.
Tout à fait.
Il mélange tout. On n'a aucune jurisprudence en droit français qui dit que le secret professionnel, c'est transmettre des documents pour se défendre et pour exercer ses fonctions. Mais bon, après, voilà, c'est comme je dis, hein, c'est toujours des jugements politiques, pas en droit, et donc c'est comme ça les arrange, quoi.
Ouais. Ouais, c'est comme ça les arrange. Sauf que ça marche jusqu'à un certain point. Heureusement, donc la Cour de casse, donc là encore rembarré sur cet argument-là. Alors l'attendu suivant ressemble au deuxième qu'on avait cité sur la loi sur le lanceur d'alerte. Alors je pense que ce qu'ils ont voulu en mettre une louche sur la surinterprétation en fait du caractère démontré en fait l'inversion de la charge de la preuve sur le lanceur d'alerte en réalité. Et donc ils en remettent une bonne couche en disant que il faut examiner ça au regard des nouvelles dispositions où là probablement on aura quelque chose de très différent, hein. Et le dernier point, je me permets d'aller jusqu'au bout puisqu'on a presque fini. Donc le dernier attendu, alors je l'aime bien aussi, c'est justement ce que tu disais sur le problème que tu dénonçais des faits potentiellement délictueux, notamment potentiellement que tu dénonçais que tu avais été victime d'obstacles ou de tentatives de déstabilisation, hein, que tu étais de bonne foi quand tu dénonçais ces tentatives d'obstacles et de déstabilisation, et que donc ça n'a pas été correctement examiné. Alors je lis la fin parce que c'est magnifique. Quand se bornant à relever que Madame Pfeffer n'était pas poursuivie dans le cadre d'une procédure pénale ou disciplinaire, c'est arrivé après, mais bon, sans rechercher si les tentatives de déstabilisation et d'atteinte à son indépendance dont elle avait été victime et qui relevaient de la qualification d'entrave aux fonctions d'inspecteur du travail ne rendaient pas nécessaire la transmission des informations révélant ces faits. au Conseil national de l'inspection du travail, comme tu disais, et aux organisations syndicales, et ont pour mission notamment de défendre les salariés en difficulté. Et donc ils disent, en n'observant pas cette question-là, en ne se posant même pas la question, en écartant d'un revers de main, la Cour d'appel a violé les textes suvisés.
Et oui, parce qu'en fait, c'est ça le problème de mes procès depuis le début, c'est qu'à chaque fois, ils font comme si il n'y avait pas de délit, que moi, j'étais pas une victime, qu'il n'y avait rien qui n'allait. En fait, ils occultent totalement ce qu'a pu essayer de faire ou ce qu'a fait Tefal, ma hiérarchie, etc. Mmh. Et vraiment, c'est vrai qu'en occultant ça complètement, c'est comme là, j'ai lu une déclaration de l'avocat de la
communication
de Tefal qui dit elle voulait se venger, elle est en conflit avec son directeur. Mais ça, c'est complètement occulté. Bon, après, c'est son boulot, hein. Mais c'est occulté totalement le complot qui existait et la preuve qu'on a de ce complot. Parce que, enfin, voilà, c'est pas juste ma parole contre la leur, c'est qu'on sait. On a les documents qui prouvent que. Et ça, c'est pareil, dans tous les procès, à chaque fois, c'est complètement occulté. C'est-à-dire qu'ils mettent le focus sur moi, sur ils veulent absolument faire ressortir que j'ai une personnalité procédurière, que je voulais me venger de mon directeur, alors qu'en fait, mon directeur, avant l'affaire Tefal, j'étais pas particulièrement en conflit avec lui. Il y avait rien.
Il s'est sorti à ce moment-là.
C'est sorti à ce moment-là. C'est en fait, lui, il a commencé à me harceler et à m'enquiquiner et à me rendre malade quand Tefal lui a grosso modo commandé de me foutre sur la touche, quoi. Donc il n'y avait pas de conflit préalable. Après, je m'entendais pas. C'était pas mon pote. J'allais pas boire des coups avec lui, mais il n'y avait pas de conflit particulier préalable à l'affaire Tefal. Donc c'est vrai que c'est empli de mauvaise foi. Et ce qui est dingue, c'est que en fait, on se rend compte que les juges reprenaient à leur compte complètement la théorie de l'avocat de Tefal. Ils étaient complètement partiaux, en fait.
Ouais, complètement partiaux. D'accord. Ah. Bon, t'as une date pour ton procès ou pas ?
Non. Après, c'était mon avocat près de la Cour de cassation là qui me disait quand je l'avais vu le 5 septembre qu'a priori c'était sur. C'était maximum 12 mois, qu'ils essayaient d'être un peu plus rapides quand c'était comme ça, après une décision de cour de casque habituellement. Donc moi, j'espère qu'en tout cas, courant 2019, on aura l'audience, quoi, je pense.
Voilà. Il y a beaucoup de choses qui pèsent là-dessus, parce qu'en fait, moi, l'arrêt du 17 octobre, hein, donc il date d'il y a deux jours, hein, je me dis, en fait, ça déborde largement. On a abordé les sujets, en fait, de la confidentialité, du secret des affaires, des lanceurs d'alerte, de la défense des salariés contre leur employeur. On n'est pas juste sur l'affaire Laura, en fait.
Je le porte jusqu'au bout, hein, parce que moi, c'est ce que je disais, à titre personnel, j'étais condamnée à 3 500 € d'amende avec sursis, j'ai pas d'inscription à mon casier judiciaire, donc si je regarde que vis-à-vis de ma petite personne à moi, j'ai pas trop d'intérêt de mener le truc aussi loin, parce que finalement, j'ai pas subi de dommages, à part de la souffrance, etc., mais ça, c'est autre chose, Mais c'est vrai que non, ça dépasse. Oui, effectivement, il y a le statut du lanceur d'alerte. Ça sera la première fois en droit français que on va voir si la loi Sapin 2 permet une vraie protection ou pas. C'est quand même hyper important.
C'est
quand même vraiment beaucoup de lanceurs d'alerte qui en ce moment souffrent. Et puis avec la loi sur le secret des affaires qui vient de passer, c'est hyper important de voir si on a un minimum de protection, si les lanceurs d'alerte à venir peuvent espérer un minimum de protection judiciaire. Et puis effectivement, il y a toute la question de la défense du salarié contre son employeur, qu'est-ce qu'il peut faire, à qui il peut transmettre les documents. Et puis il y a la légitimité aussi de l'inspection du travail. Et comment est-ce qu'on peut exercer notre métier si dès qu'on bouge le petit doigt, même quand on a des preuves accablantes, c'est nous qui sommes poursuivis et pas l'employeur, quoi.
Il y a
effectivement des grands enjeux et des enjeux effectivement qui dépassent ma simple personne.
Oui, tout à fait. Non, mais je pense que là, on a fait des sujets, hein, sur, alors, le sujet de l'émission, c'est faire parler les gens sur leur vie dans le travail. Donc, c'est sûr que si c'est interdit, je vais me retrouver un peu seul derrière le studio quand même. D'une part, mais par ailleurs, on a déjà fait des sujets sur la loi Sapin. Alors, ce qui me bouffe le ventre, hein, je te le dis tout de suite, c'est que moi, la loi Sapin 2, quand elle est sortie, j'étais pas très chaud sur les dispositions, hein, je te le dis franchement, j'ai trouvé que c'était,
Elle est timide,
on est d'accord.
C'est mal pagoté. C'est vraiment un sale compromis en disant bon, on sort quelque chose parce qu'on peut pas ne rien sortir parce qu'il y a la CEDH qui pousse depuis des années.
Bah oui.
Mais en même temps, on veut pas trop sortir un truc trop fort parce qu'on voudrait pas que nos copains, les lobbyistes, soient un petit peu trop emmerdés. Donc c'est un sale compromis.
Ouais.
Mais bon, elle a au moins le mérite d'exister. Après, tout, enfin moi, c'est pour ça, comme c'est un sale compromis, comme elle est assez restrictive, tout va dépendre de ce qu'on va en faire les juges. En fait.
Exactement.
Et c'est ça qui est intéressant pour la Cour d'appel de Lyon, c'est que là, on va voir si oui ou non, on donne du corps et une vraie vigueur à cette loi, parce qu'ils peuvent le faire, ils ont quand même un petit peu de place pour le faire, ou s'ils décident de vraiment la priver de tout essence et de partir de l'autre côté, c'est-à-dire plutôt loi secret sur loi sur le secret des affaires, et puis...
Bah oui, vous
fermez
que...
tous votre gueule et sinon si vous l'ouvrez vous allez être hyper emmerdé quoi.
C'est ça, parce que de l'autre côté il y a une autre loi dont il faut définir en fait laquelle pèse dans des situations concrètes, c'est la loi sur le secret des affaires qui elle est sacrément salée par contre, elle est sacrément, sacrément brutale on va dire.
Ah ben là ils sont pas gênés quoi.
Non ils sont pas gênés non, c'est clair. Donc oui non, il y a un vrai enjeu autour de cette affaire, c'est pour ça qu'on revient dessus, bon outre le sujet de l'émission mais je veux dire c'est, je pense que là pour le coup bon on a un vrai bras de fer encore devant nous, mais c'est bon dans ce bras de fer quand même, c'est pas une mince affaire d'avoir réussi à faire casser les jugements complètement déséquilibrés. Allez, on va être gentil, hein, complètement déséquilibrés des cours de d'Annecy et de Chambéry. On est quand même d'accord, c'est quand même une victoire. T'es contente?
Ah ouais non, j'étais hyper contente. Non, je suis hyper contente. J'avais vraiment bon espoir, donc j'aurais été hyper déçue si ça n'avait pas été le cas. Mais c'est vrai que non, je suis soulagée parce que j'avais quand même un doute jusqu'au bout parce que depuis le début, tout le monde me dit mais c'est pas possible, il va pas se passer ça et puis à chaque fois il se passe pas. Donc
c'est ça.
On sait jamais.
Le scénario du pire à chaque fois.
C'est ça. À chaque fois c'est rocambolesque et c'est le pire qui m'arrive. Donc bon, j'avais quand même des doutes, j'avais quand même un peu peur, mais c'est vrai que non, je suis hyper soulagée. Et puis je suis contente, et puis j'espère vraiment que la Cour d'appel de Lyon, elle va être impartiale, qu'elle va vraiment juger en droit, et qu'on va avoir un beau procès, où on va pouvoir tout mettre, et puis pas occulter ce qu'a fait Tefal, pas occulter ce qu'a fait ma hiérarchie, enfin voilà, avoir un procès impartial, et puis un procès déontologiquement nickel, ça serait bien. Et puis avec une belle décision de justice à la clé, ça sera parfait, avec une belle relaxe, et puis un statut des lanceurs d'alerte un petit peu renforcé, ça fera pas de mal, quoi, ça serait bien.
Ça fera pas de mal. Bah, vu le sujet, tu seras pas surprise. Nous, on a suivi, ton affaire, comme un serpent de mer à travers toute l'émission. Ça a été un peu le fil de fer de l'émission, puisqu'en fait, faut dire la vérité, on a commencé le format secret de fabrication au moment où les premiers déboires arrivaient, et donc on a vraiment eu toute la série des procès avec les témoignages de salariés en sympathie, avec toi-même ou Kevin, qui avons détaillé l'affaire. Donc comme je disais aux auditeurs avant que t'interviennes, ceux qui ont suivi, ils savent de quoi on parle. Hein, mais c'est une affaire que on a plaisir à suivre parce que. Alors jusqu'ici c'était malheureusement un plaisir de curiosité un peu difficile pour nous parce qu'on prenait des taquets comme toi à travers malheureusement ce qui t'arrivait, mais là bon on se dit on n'a pas fait tout ça pour rien quoi, hein, y compris de faire de la pub, y compris de se mobiliser, y compris de te soutenir, parce que c'est quand même bien qu'à un moment donné les choses soient dites clairement quoi.
Voilà, c'est long, c'est douloureux, ouais. C'est pénible, mais si au bout on gagne, ça sera super.
C'est pas pour rien.
Même si ça a été difficile, voilà, il faut y aller jusqu'au bout. Après, ça, c'est pas toujours, tout le monde peut pas toujours se battre jusqu'au bout pour X ou Y raison. Mais bon, j'espère en tout cas, ouais, qu'à la fin, c'est nous qui allons gagner, quoi.
Ah oui, juste une petite question, parce que le camarade salarié lanceur d'alerte qui a eu un coup de fatigue, si j'ai bien compris, qui a un peu lâché l'affaire, qu'est-ce qu'il est possible pour lui, là, à ce stade?
Le problème, c'est que lui, il va rester condamné.
Ouais.
Quoi qu'il en soit, malheureusement, c'est vrai que lui, il s'était pourvu en cassation avec moi, puis à la fin, après, il s'est désisté parce que déjà psychologiquement, il n'en pouvait plus. Financièrement, il ne pouvait plus non plus, parce qu'il était par ailleurs au prud'homme contre Tefal, etc. Donc ça lui a coûté une blinde, toute cette histoire, lui,
bah
il
n'a
rien. Sachant qu'il avait, comme il avait tout perdu, son travail, etc., sortir des milliers d'euros, c'est super compliqué. Donc c'est vrai que bon, moi, à l'époque, je lui avais dit, t'inquiète pas, moi, je vais le porter jusqu'au bout. Et même si toi t'es condamné, on va dire juridiquement, il sera condamné. Mais symboliquement, si moi je suis relaxé, il est forcément relaxé aussi symboliquement. Enfin, je veux dire, le combat, il sera porté. Après, c'est sûr, ça aurait été mieux s'il était venu avec moi jusqu'au bout. Mais après, voilà, il faut comprendre. Moi, c'est vrai que mes frais de justice sont pris en charge par le ministère.
Ouais.
C'est pas son cas. Ouais. Donc,
et même derrière, si jamais le ministère était encore, il y a le syndicat qui pouvait t'épauler aussi un petit peu,
voilà,
tout ça quoi.
Ouais, ça fait beaucoup, donc même si son avocat en cour d'appel de Chambéry a été a pris presque rien en honoraire et puis a été payé aussi en partie par les syndicats, etc. Puisque bon, j'ai fait en sorte de l'aider à trouver du soutien financier, etc. C'est vrai que même, enfin voilà, faire un pourvoi en cassation, le porter, lui il est pas juriste en plus, c'est pas sa partie.
Ouais.
C'est compliqué pour les justiciables, voilà. C'est pour ça que souvent d'ailleurs, y a pas d'arrêt de cour de cassation, ça s'arrête à un moment donné parce que les gens ils sont usés, ils en peuvent plus. D'ailleurs c'est sur ça qui compte. Hein.
Ouais. C'est un peu la stratégie qui a été utilisée par Tefal, là, c'est clair, l'usure.
Ouais, c'est ça.
À tout prix.
C'est ça, mais c'est même la stratégie de l'administration aussi vis-à-vis de moi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils essayent toujours de t'user et puis ils finissent par avoir ce qu'ils veulent. Donc, bon, sauf que, bon, voilà, moi, c'est vrai que j'ai du soutien parmi des organisations syndicales, j'ai des collègues qui me soutiennent. Tu parlais de Kevin, il y en a d'autres aussi. Je suis pas toute seule. Quand j'ai eu des gros, gros coups de fatigue, des gros coups de mou, ils ont pris le relais. Après, à leur tour aussi, ils avaient des gros, gros coups de fatigue et des gros coups de mou. On a tous souffert. Ensemble pour la même chose, mais on était dans des temps différents, donc on arrivait tout. Il y avait toujours un ou deux qui étaient prêts
à reprendre le
combat de tambour. Donc c'est vrai que du coup, ça permet de durer sur une aussi longue durée, hein, parce que sinon tout seul, tu n'y arrives pas.
Ouais.
Et puis, voilà, comme tu disais, là, c'est une cause qui me dépasse moi. Il y a des grands enjeux et il faut le porter jusqu'au bout. Quoi.
Ah, mais personne n'avait de doute qu'il fallait mouiller la chemise. Ça, c'est clair. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Ça, c'est sûr. Parce que sinon, après, c'était la fin des haricots.
Lui, il n'est pas le salarié, il n'est pas dans un collectif,
non.
Il n'est pas avec nous. Ça, c'est pas la même chose. Psychologiquement, lui, il est tout seul avec ses problèmes personnels, financiers, puis familiaux. Le pauvre, c'est vrai que je comprends que en cours d'appel de Chambéry, tu lui dis, t'es potentiellement reparti pour 4 ou 5 années de lutte.
Ouais.
Il me regarde, il me dit, parce que moi je lui dis, bon, on va aller en cours de cassation, si on gagne, on peut être envoyé en cours d'appel. Là, imaginons, dans le pire des cas, je perds, je peux de nouveau aller en cours de cassation, ou alors je peux aller en cour européenne des droits de l'homme. Enfin, quoi qu'il en soit, potentiellement, ça peut encore durer 4 ou 5 ans l'histoire. Donc c'est vrai que je lui dis, bon, il faut savoir, quand tu te lances là-dedans, il faut savoir que t'en reprends pour 4-5 ans. Et lui, c'est vrai qu'il t'est pas senti, je comprends. Hein.
Ouais, tout à fait. Mais c'est un vrai problème. Ça, c'est clair que c'est un vrai problème. L'usure devant la justice, pour obtenir ses droits, c'est un vrai souci. Mais ça, c'est ce qu'on, nous aussi, on est dans l'émission, c'est un peu le but, quoi. Hein. C'est, on dit grosso modo deux choses. Il faut parler. Il faut pas rester silencieux. Et il faut s'organiser. Je crois qu'il y a pas, c'est la base de tout, hein. On est d'accord. Hein,
c'est ça. C'est vrai. Parce que c'est vrai qu'avant cette affaire, moi, j'avais tendance à gérer mes problèmes toute seule, comme plein de gens, hein, à me dire non, mais je vais y arriver, etc. Et puis en fait, cette affaire, ça m'a appris quand même l'humilité, c'est-à-dire que t'as beau avoir les connaissances, toutes les connaissances qu'il faut, t'as beau être au taquet, etc. Il y a un moment donné, quand t'es à terre, et heureusement qu'il y a des gens autour de toi pour t'aider à te relever et pour faire à ta place quand il le faut, quoi.
Et se relayer, c'est hyper important ce que tu avais dit, c'est-à-dire que, y compris les gens qui te soutiennent, aussi peuvent avoir des coups de mou, des coups de faiblesse, ils peuvent subir le découragement.
Ils ont eu des burn-out, ils ont eu des coups de grosse déprime, parce que me soutenir sur le fief d'Annecy, ils ont pris les représailles comme moi, ils avaient la hiérarchie sur le dos comme moi, donc ils ont mouillé leur chemise et puis ils en ont beaucoup souffert, leur carrière en a beaucoup pâti aussi. Donc, c'est grâce à eux que j'ai pu maintenir le combat comme ça sur autant d'années et que je vais pouvoir l'amener jusqu'au bout, quoi.
Écoute, on va continuer à suivre et on pense que oui, on va mener ça jusqu'au bout. Allez, c'est nous qu'on gagne à la fin, hein, comme ils disent. Hein.
C'est ça.
Bon, écoute, je te remercie beaucoup, Laura. Franchement, j'espère que ça a été éclairant pour les auditeurs et les auditrices qui pourront nous le dire. D'ailleurs, il n'y a pas de souci. Donc, je rappelle l'antenne de l'émission 01 40 05 06 10 si vous voulez faire des commentaires. Et là, on va poursuivre justement en faisant des propositions de dialogue autour de la question de l'entreprise. Tu peux rester en ligne 106.3 FM. Ah non, ça c'est pas possible en Guadeloupe. Par contre, www.rfpp.net, oui, ça c'est possible.
D'accord. ça marche.
Allez, à bientôt, Laura. Merci beaucoup.
À bientôt, merci.
Alors, c'était We Talk About It de Bob Moses. Donc, parler, oui, parler, car c'est de ça dont on va parler pour finir l'émission. Deux instances de parole des salariés. Alors, d'abord, c'est pour vous signaler un ouvrage, l'ouvrage de Nicolas Latteur, syndicaliste belge, qui a écrit « Travailler aujourd'hui, ce que révèle la parole des salariés ». Et qui est un ouvrage d'une expérience de première main, donc de faire parler, d'organiser les salariés pour qu'ils, et notamment elles, parce qu'il parle, il y a beaucoup question dans le livre de la parole des femmes, la parole des femmes qui se libèrent sur le lieu de travail, et donc les salariés, hein, avec un E intercalé au milieu, bien sûr, comment ils prennent la parole, comment ils se défendent, comment on peut aussi, de l'intérieur de l'entreprise ou de l'extérieur, les faire parler et qu'est-ce qu'on y gagne. Parce que c'est ça, le principe, le fil conducteur de l'émission, donc je vous le rappelle encore une fois ce soir, le fil conducteur de l'émission, c'est que les meilleures personnes placées pour parler du travail quotidien, c'est-à-dire pour parler de ce qui occupe 80% de nos vies, c'est encore les gens qui sont au poste de travail. Et ça, c'est pour ça qu'on verra le plus souvent possible ici des gens qui sont en relation directe avec le lieu de travail et qui vont me parler de leur expérience de première main. Voilà, c'est un peu un principe de l'émission. Alors c'est vrai qu'on se permet de broder, on se permet d'inviter des spécialistes, on se permet d'inviter des experts, mais c'est pour parler de la situation concrète des gens et essayer le plus possible de recueillir leur avis. Alors je voulais vous signaler donc deux autres événements, un qui se déroule en ce moment, une action encore de salariés. On vous avait parlé donc des hôtels du travail de la CGT HPE, CGT Hôtel de Prestige et Économique, qui organise des salariés, notamment des salariés du nettoyage dans les hôtels, et qui tentent, par la grève, par la discussion, mais surtout par le rapport de force, de faire rapatrier les salariés dans les hôtels qui les ont externalisés. Et c'est en ce moment ce qui se passe à l'hôtel Park Hyatt Vendôme. Oui, vous avez bien dû Vendôme. Non, c'est pas à Vendôme. Non, c'est à Paris, place Vendôme. C'est pas tout à fait pareil. Donc, aux 5 rue de la Paix. Voilà, je voulais mettre la main sur le morceau de Zazie où elle chante un hôtel rue de la Paix, mais j'ai pas réussi. Mais en tout cas, vous avez l'idée. Donc, aux 5 rue de la Paix, il y a un hôtel Park Hyatt Vendôme. Je suis passé devant. C'est absolument rutilant. Et à l'intérieur, ben, il y a un grand nombre de salariés qui sont mécontents du fait d'avoir été mis dans une sous-entreprise pour s'occuper du nettoyage. Et donc sur à peu près 220 salariés de l'hôtel, c'est quand même des grands grands hôtels, hein, 80 travailleurs et travailleuses sont en grève, dont 70 font partie des sociétés de sous-traitance. Ils demandent donc leur réintégration et les mêmes droits, hein, que les salariés de l'hôtel Hyatt. Donc c'est assez important. Pour les soutenir, se tenir au courant donc des événements, il y a des manifestations régulières et des visites. Et donc je vous remets également le titre de l'ouvrage, donc Travailler aujourd'hui, ce que révèle la parole des salariés. Donc c'est édition du Cerisier Belgique 2017. On peut le commander sans frais de port auprès de l'éditeur www.edition-du-cerisier.be. Voilà, donc ça c'est pour commander l'ouvrage. Et en dernier lieu, j'ai une petite annonce à la fin. De 14h pardon, à 19h30 à la Parole Errante, donc au 9 rue François de Berg à Montreuil, il y a une rencontre de salariés en lutte, une rencontre de mouvements antifascistes, une rencontre avec le comité Adama, une rencontre avec les facs en lutte, tout ça qui s'appelant Alliance en mouvement, pour revenir sur les alliances qui se sont tissées entre divers mouvements au cours du printemps 2018. Ça va être très intéressant. Donc allez-y, 9 rue François de Berg à Montreuil, métro Croix de Chavaux, de 14h à 19h30, avec apéro et repas de soutien à la clé. Voilà, donc d'importantes discussions. Libérez la parole, n'oubliez pas, libérez toujours la parole sur le travail, sur le lieu de travail. Ne refusez de la fermer et défendez votre droit de l'ouvrir. Voilà, c'était le thème de l'émission d'aujourd'hui et ce sera le thème de toutes les prochaines émissions. Salut!
Alors qu'à ce